Hey, bienvenue dans cette nouvelle saison de Parle-moi d'amour, des épisodes un peu plus courts, une semaine sur deux. Je recommence les enregistrements en pleine période Covid, donc chacun chez soi, et comme je suis pas une génie du mixage du son, ça va parfois être un peu approximatif. Ah oui, encore une nouveauté, il y a un générique! C'est un extrait de Wild Waves de Grenada, un artiste qui fait de la musique libre de droit. Merci, merci! Aujourd'hui, on écoute Frank G. Matthews, auteur de Fantasy, et on va savoir comment il gère sa vie de couple et sa maladie. Allez, on y va! Bonjour Franck, ça va?
Bonjour, ça va et toi?
Écoute, ça va. Je suis contente qu'on puisse réenregistrer cet épisode parce que la dernière fois, on a enregistré dans un café. Du coup, l'ambiance était très très chouette, mais il y avait trop de bruit d'ambiance, en fait. Voilà.
Et puis il y avait du passage dans la rue, il y avait des camions poubelles, il y avait le serveur qui recevait les notifications Adopte un mec, etc.
Ouais, alors ça c'est rigolo. Moi j'ai bien aimé ce passage avec la petite musique genre « Haha, on t'a eu !» Mais ouais, c'était un peu... En plus, j'ai eu des problèmes de montage où j'ai voulu atténuer un son dans la bande et en fait le logiciel l'a assimilé à ma voix et du coup il a baissé toute ma voix sur le truc. J'étais là.
Oui, mais ah oui, non, pas top.
Ouais, je suis pas un bruit d'assiette. Bref, vas-y, présente-toi un petit peu. T'as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Alors, je m'appelle Franck, j'ai 28 ans, bientôt 29, dans 15 jours, et je suis écrivain. Donc, j'ai publié deux romans de manière indépendante, c'est-à-dire sans passer par des maisons d'édition. Je suis en train de finir d'écrire le troisième roman.
Super! Et on peut les trouver où, tes romans?
Alors, comme je suis indépendant et que j'ai pas de système de distribution, et que les auteurs indépendants sont un peu... la lead de l'humanité dans le domaine du métier du livre, je suis disponible que sur Amazon, parce que c'est la seule plateforme qui accepte les auto-édités et qui accepte d'imprimer les livres et de les envoyer. Par exemple, en librairie, la plupart du temps, ils nous disent.
D'accord, ok. Donc, les gens, si vous voulez faire des cadeaux, vous savez quoi faire, vous allez sur Amazon. Je pense que je mettrai un lien vers tes ouvrages dans la description, comme ils disent les gens importants de YouTube et du podcast, tu sais. Ok.
J'ai fait une petite offre de Noël pour ceux que ça intéresse. Pour toute commande de livres papier, j'envoie un marque-page dédicacé, du coup, sur le thème de mes livres.
Ok, mais logistiquement, tu fais comment, du coup?
Eh ben, je prends le marque-page et je le mets dans une enveloppe.
Ah ouais, d'accord. Oui. Donc, en fait, la personne va recevoir d'un côté son livre via Amazon et de l'autre, toi, tu lui envoies...
Genre
Special Snowflakes. Genre les gens, ils sont tellement spéciaux que tu leur envoies de chez toi un truc spécial.
Ouais, avec une dédicace sur mesure.
Oh, ok. Comment tu bichonnes tes lecteurs?
Bah il faut bien, parce que ceux qui commencent à me faire vivre en fait. Et sans eux, moi j'ai plus de métier.
Enfin, ouais,
c'est beau d'écrire un livre, mais s'il y a personne derrière pour les lire et en parler, bah l'aventure s'arrête vite.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tous n'ont pas forcément le réflexe de faire ça.
Non, et d'ailleurs, c'est un problème, c'est les auteurs qui n'arrivent pas à décoller en général.
Ouais, je vous méprise, lecteur. Oui, bah nous aussi, du coup.
Bah, il y a un peu de ça, ouais.
Ouais. Et est-ce qu'on peut dire au grand jour quelle est ta situation amoureuse du moment?
Eh ben, en ce moment, ça fait 9 mois que je suis en couple et que ça se passe merveilleusement bien. Et du coup, on a prévu d'emménager ensemble l'été prochain.
Ok. Je sais que c'est un peu le thème un peu de cet épisode en plus. Enfin, il y a une double thématique avec toi, mais voilà. Donc la thématique, tu es un auteur, et donc on va parler potentiellement de l'amour dans tes romans. On va peut-être juste le mentionner, voilà. Mais c'est ce qui m'intéressait aussi avec toi, c'est que tu es malade. Est-ce
oui.
que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que moi, j'ai probablement été un peu maladroite en parlant.
Alors, j'ai une maladie auto-immune qui s'appelle une spondylarthrite ankylosante, et j'ai d'autres symptômes auto-immuns à côté. En gros, pour faire très, très bref, c'est mon système immunitaire, mon propre corps, qui s'attaque à mes articulations. Donc, les symptômes principaux, c'est énormément de fatigue et de douleur en permanence. Je ne peux plus faire de sport parce qu'au moindre mouvement, ça cause des douleurs, donc les articulations, etc. Et ça, c'est surtout actif en ce moment la nuit, donc ça m'empêche aussi de dormir. Donc c'est des conditions qui sont pas géniales pour une vie au quotidien, pour travailler, et pour une vie de couple. Par exemple, le matin, je me réveille souvent très tôt, et quand Christina est là, bah, je me lève et je vais discrètement dans le canapé pendant 2-3 heures des fois pour la laisser finir sa nuit, parce que je vais pas la réveiller parce que moi, je peux plus dormir. Donc il y a plein d'activités que je peux pas faire au niveau physique. J'ai encore presque toute ma tête, donc ça va, tant que c'est de la réflexion intellectuelle, ça va. Mais ça pose quand même des limites au sein d'une relation et au sein d'une vie en général.
Ouais, c'est par le passé, t'as eu des soucis avec tes relations à cause de cette maladie?
Alors j'ai eu plusieurs cas de figure. Quand cette maladie s'est déclarée il y a presque 4 ans maintenant, j'étais déjà en couple à l'époque avec quelqu'un d'autre. Et cette personne finit par me reprocher d'être malade, par me dire oh, t'es chiant, on peut plus rien faire, j'ai envie de faire des activités et toi t'es pas capable de les faire, tu peux pas suivre physiquement, je peux pas faire ce que je veux à cause de toi. En gros, c'était vraiment du blâme en permanence. J'ai donc fini par quitter cette personne, hein, très clairement.
Ouais, bah ouais.
C'était pas très simple, parce qu'en plus c'était au tout début. Ce genre de maladie, ça, on les garde à vie et on met très longtemps souvent à les diagnostiquer, à trouver un traitement qui soulage un petit peu au quotidien. Donc les 6 premiers mois, on était vraiment, bah, j'ai perdu 15 kilos en 2 mois, je m'évanouissais au travail. Enfin, c'était vraiment assez hardcore. Et enfin, j'avais besoin de personnes autour de moi pour me soutenir, quoi. Et elle, qui était en couple avec moi, elle faisait le contraire. Donc, il y a un moment, j'ai eu une période quand même assez compliquée. Et un peu plus tard, donc, j'ai quitté cette personne et j'ai trouvé d'autres copines qui ont eu la décence d'être neutres à ce sujet. C'est-à-dire que, bon, bah, t'es malade, ok, on fait avec, on fait pas ce que tu peux pas faire, mais on va pas non plus s'investir beaucoup, essayer de beaucoup comprendre ce qui se passe. Enfin, c'était neutre, c'était bienveillant, mais il n'y avait pas non plus d'implication de folie, quoi.
Et
Et
ça,
là, avec...
justement, j'allais te poser la question.
Ouais.
Et du coup, avec Christina, c'est différent?
Bah, c'est différent parce que elle a compris que c'est quelque chose qui fait partie de moi et qui va pas s'en aller, en fait. Donc autant l'accepter réellement dès le début. Et du coup, elle fait attention. Fais attention à ce que quand on sort, on fasse pas des trucs que je puisse pas faire ou qu'on n'aille pas trop loin, parce que les transports, c'est pareil, ça peut vite devenir un cauchemar si ça dure un peu. Plein de petites attentions. Enfin, ça lui est arrivé quand j'étais sur le canapé, assis pas très droit, elle m'a dit, oh, redresse-toi, tu vas te faire mal au dos. Enfin, non, mais c'est mignon. Elle y pense, elle le prend en compte, et ça fait du bien de sentir que bah que qu'elle en prend vraiment compte, quoi, qu'elle y fait attention, et que c'est pas juste quelque chose comme ça en passant. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien tous les deux, du coup, et qu'elle me le reproche pas, et même qu'elle l'accepte sans problème.
Ouais. Est-ce que tu penses que ça vient de qui elle est ou c'est un peu des formations professionnelles parce qu'elle est dans le milieu de la psychologie, donc du soin et... Oh non, en fait, c'est un peu stupide ce que je viens de dire. Pardon, je viens de réaliser. Non, mais parce qu'elle se serait pas orientée vers ce type de métier si elle s'intéressait pas aux gens.
Exactement, j'allais dire les deux sont liés, et elle a entrepris cette carrière-là parce que justement elle a cette personnalité. Au début, elle a fait une formation de marketing à Athènes, parce qu'elle est grecque, elle est arrivée en France qu'il y a 3 ans. Elle a fait une formation de marketing à Athènes, et en fait c'est à la fin de la formation qu'elle s'est rendue compte qu'en fait ça ne plaît pas du tout, quoi. Elle est tombée, elle a commencé à s'intéresser à la psychologie de façon générale. Et ça lui correspond tellement mieux. Enfin, elle a vraiment la personnalité pour, parce qu'elle est extrêmement intelligente au niveau social, dans d'autres domaines aussi, hein, mais surtout au niveau social. Et elle le fait elle comprend les gens, et elle le fait avec beaucoup de bonne foi et beaucoup de bienveillance, et avec beaucoup de cœur. Donc en fait, elle a le combo parfait pour faire ce genre de métier, parce qu'elle va vite comprendre la façon de penser des gens et potentiellement leurs problèmes, et elle va avoir la volonté derrière d'essayer de les aider.
Ok, si on pouvait avoir plus de praticiens avec cette mentalité-là, ce serait bien.
Ouais, parce que du coup, dans mon passé professionnel, je travaillais à l'hôpital en neuro, une thèse de neuro, et j'ai été en contact comme ça aléatoirement avec des psychologues, des psychiatres. Alors il y en a qui sont très bien, je dis pas le contraire, mais il y en a, en fait, ils ont plus de problèmes que leurs propres patients, quoi. Enfin, ils font clairement ça pour se soigner eux, et moi, certains, c'est pas la majorité, hein, mais il y en a certains, je plains leurs patients, en fait, qu'ils
Ouais.
font pas ça bien du tout. Et quand on voit les responsabilités que ça a, et les conséquences que ça peut avoir sur le mental d'une personne d'avoir un mauvais psychologue, c'est fou. Enfin, c'est pas très sain, quoi.
Ouais, c'est clair. Et du coup, toi, avec Christina, à quel moment, est-ce que déjà il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, je suis bien avec cette personne, c'est cool, je peux me projeter Et te dire, celle-là, bah, on va faire un bout de chemin ensemble.
Bah, dès le premier rendez-vous, il y a eu un très très bon contact, un bon feeling où en fait on n'a pas essayé. On était tous les deux dans une série un peu où on faisait un peu des premiers rendez-vous pour voir sans trop savoir ce qu'ils nous demandaient. Et ça faisait deux trois fois chacun qu'on était tombé sur des cas un peu moyens, on peut dire qu'ils ne correspondaient pas tout simplement. Et ça a bien cliqué dès le premier rendez-vous où en fait on s'est à cause de cette séquence-là, de cette période-là de rendez-vous un peu pas super. On s'est vraiment lâché, dans le sens où on a vraiment été nous-mêmes, on n'a pas essayé de se présenter de la meilleure façon possible, comme on peut le faire parfois dans certains premiers rendez-vous. On s'est vraiment lâché et on s'est vraiment marré. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup discuté. Donc dès le départ, il y a eu un bon truc. Et puis après, on s'est jamais arrêté. On s'est rencontré fin février et le...
Ah oui, il y a eu le confinement juste derrière.
Ça faisait 3 semaines qu'on se connaissait quand le confinement a commencé. Et on s'était dit chacun un peu de notre côté, bah ça va pas forcément tenir, quoi. Tant pis, c'était sympa, mais voilà. En fait, on a continué à se parler tous les jours, prendre des nouvelles, etc. Et puis on s'est revus dès le jour où le déconfinement a été annoncé. Et depuis, on s'est pas lâché, quoi.
Ouais, trop mignon.
Ouais.
Et du coup, vous avez, tu disais du coup qu'elle prenait vraiment en compte ta maladie. Comme tu disais aussi, c'est une maladie qui va évoluer avec le temps. Est-ce que vous en avez parlé de ça, de ce que ça voudra dire pour tous les deux sur le long terme?
Oui, on a commencé un peu à en parler. Alors sur certains sujets plus que d'autres, on va dire que au niveau déclin physique, bah, elle est au courant qu'il y a un moment peut-être que j'aurai besoin d'une canne pour marcher, que peut-être que je vais avoir des gros problèmes pour me déplacer. Mais maintenant que je suis écrivain, que je travaille à la maison, ça c'est moins gênant. Ça sera plus dans la vie du quotidien au niveau social, on va dire. Et ça pose des problèmes peut-être pour avoir des enfants, parce que du coup, moi, si j'ai des enfants, il y a 95% de chances au moins qu'ils aient la même chose que moi. Et c'est quelque chose que je veux pas pour l'instant, je veux pas leur infliger ça, et donc c'est quelque chose qu'on a doucement commencé à aborder, mais bon, elle est plus jeune que moi, et les enfants, c'est pas pour tout de suite, de toute façon, dans tous les cas. Donc, on a abordé le sujet, ouais.
Ok, et avec peut-être l'éventualité d'adopter ?
Oui, bah après on réfléchira, on est deux personnes relativement intelligentes, on saura trouver les solutions qui nous vont au moment où...
Ok, bah oui. Est-ce que c'est facile pour toi de lui dire je t'aime ? Est-ce que tu lui as déjà dit ?
Oui. Oui, c'est facile, et c'est la première personne avec qui c'est facile.
Ah. Oh.
De le dire. Oui, exactement.
Non, mais ça veut dire beaucoup, je trouve, quand... Enfin, moi, ouais. Ce qui me frappe un peu dans toutes les histoires que j'ai entendues, c'est... ce qui revient le plus, c'est de dire « Là, waouh, c'est facile, c'est limpide, ça va de soi. » Et ça fait un peu conte de fées, quoi.
Ouais, bah en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, de vraiment m'impliquer au niveau sentimental. La grande majorité de mes relations ont été assez courtes, quelques mois à peine. Et parce que je me lasse vite, parce que je me rends très vite compte quand une personne ne me correspond pas, enfin, j'ai tout un tas de raisons. Peut-être parce que j'étais plus jeune aussi et que c'était pas trop dans mon état d'esprit de m'impliquer sur le long terme.
Ouais, tu pointes quelque chose de hyper important, d'être prêt, un peu mentalement pour ça.
Ah oui, j'étais super précoce sur plein de sujets, notamment à l'école, etc. Mais au niveau sentimental, j'avais du retard, t'imagines même pas. Enfin, j'ai commencé mon adolescence sentimentale quand j'avais 20 ans, quoi. Enfin, j'ai eu pas mal de retard là-dessus, et j'ai pris le temps, par contre. Je suis assez content d'avoir fait ça. J'ai pris le temps de me trouver sans trop me forcer à ce sujet-là, parce que bon, bah, j'avais du retard, mais il fallait quand même que je fasse le chemin. Donc, j'ai pris mon temps. Et par contre, pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à dire je t'aime, à avoir des sentiments, etc. Et c'est quelque chose que même quand j'ai fait une fois ou deux, dans les relations que j'ai eues avant, ça me venait un peu parce que c'était ce que je voyais partout et que ça semblait naturel de le dire parce que c'était ce qui se disait à ce stade-là de la relation, on va dire. Mais c'était pas forcément quelque chose qui venait du cœur.
Et là, du coup, tu mets quoi derrière les mots « je t'aime » ?
Ah bah, je pense que je mets tout ce qu'elle représente pour moi, en fait. Je mets toute sa personnalité derrière, parce que c'est ça qui fait que je le dis aussi facilement, c'est qui elle est au quotidien, tout bêtement, qui rend la chose aussi, aussi simple.
Ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'amour ?
C'est...
T'as eu 15 minutes d'échauffement, là.
Ouais. Ouais, l'amour, c'est vrai que c'est un concept assez vaste, en plus assez intéressant, parce que je l'ai analysé, si tu veux, un petit peu de plusieurs points de vue, notamment au niveau social, où j'ai mis très longtemps à m'ouvrir à la notion de sentiment. Au niveau scientifique, comme j'ai beaucoup étudié le cerveau, les neurones, le comportement et les émotions, donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, donc j'avais un aspect un peu plus technico-pratique, on va dire, du sujet. Et tout combiné, je me rends compte que plus on avance dedans, et moins on comprend, moins il y a de vérité absolue. C'est vraiment une chose qui est inhérente à chacun, ce concept d'un moi. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle j'ai mis longtemps à m'ouvrir. Et je pense que j'aurais mis encore plus de temps si j'avais pas eu certaines personnes autour de moi, par exemple. Et Christina, typiquement, elle m'a fait m'ouvrir à mes sentiments. Ça peut être aussi des relations amicales, ça peut être des relations familiales, ça peut être un peu. Mais je pense que la notion d'amour, ça se développe surtout avec les gens qui nous entourent, en fait.
Ah bah oui, tout à fait. Enfin, j'avais vu des articles qui disaient que l'amour, notamment de ton entourage, de la famille, ça aidait à ton développement intellectuel et social. Enfin, on est des animaux sociaux. Enfin, moi, je trouve qu'il faut pas considérer que l'amour est un espèce de sentiment surpuissant qui volette un peu comme une divinité indépendante autour de nous. C'est pas du tout. Hein.
Alors, animaux sociaux, ça veut pas dire, ça veut pas forcément dire sentiment d'amour. Je veux dire,
Non,
les
non, bien
fourmis, les
sûr.
loups, c'est des animaux sociaux et ça veut pas dire qu'ils vont être heureux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a le côté affectif
Ouais.
et ça donne une tranquillité d'esprit, une ouverture d'esprit aussi, et une ouverture sur soi-même. Au final, quand quelqu'un nous aime, on s'accepte plus nous-mêmes aussi, je pense, et ça nous aide à nous développer.
Bah ouais, carrément. Et du coup, ce qui revenait beaucoup quand tu parlais de Christina au début de notre discussion, c'était que elle te prend en compte, quoi. Elle fait attention à toi. Est-ce que pour toi, c'est ça, aimer et une marque d'amour?
Alors, je pense que c'est une marque d'amour et pendant très longtemps, c'est un peu ce que j'ai recherché dans une relation, c'était d'avoir le sentiment de devenir une priorité. Ça ne veut pas dire la priorité absolue. Elle a sa famille, elle a des tas de priorités dans sa vie, mais j'ai l'impression que je suis une des priorités. Et ça, c'est la première fois que je le ressens dans une relation, et pas que amoureuse, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. Je ne sais pas si c'est la définition de l'amour, mais c'est vraiment un geste qui fait beaucoup.
Ok. Et en tant qu'auteur, est-ce que tu mets de l'amour dans tes romans et comment est-ce que tu le dépeins tout ça?
Alors j'essaye, oui, je mets un petit peu d'amour dans mes romans. J'en ai pas mis dans mon premier roman parce que c'est le premier tome d'une saga. Et j'avais énormément de choses à mettre en place, et on découvrait beaucoup les personnages, dont certains qui sont arrivés dans les 3 derniers chapitres du roman. Donc j'ai pas eu, si tu veux, l'opportunité de développer de romance à ce niveau-là. Mais après, dans le suivant, oui, je développe pas que des relations amoureuses, mais des relations humaines. Dans mon deuxième roman, par exemple, la personnage principale se découvre au niveau sexuel, au niveau identité et orientation sexuelle. Et c'est quelque chose d'aussi important qui lui permet après, peut-être, de développer une relation plus saine. Et dans mon troisième roman, je développe pour le coup des relations amoureuses, vraiment des relations amoureuses.
Ok, et ça se traduit comment?
J'essaye dans mes romans, et c'est ce qui ressort le plus, surtout au niveau des personnages, d'être le plus réaliste possible. C'est-à-dire que j'écris des relations amoureuses dans mes romans, mais ça fait partie d'une histoire, c'est en background, enfin, ça fait partie d'un tout, et j'écris pas de romance, ou vraiment dans la littérature de romance, c'est la relation amoureuse, c'est la base, c'est la structure de l'histoire. Et c'est beaucoup plus dépeint, du coup. Mais j'ai plus tendance à faire ça, comme dans la vraie vie, où c'est pas le truc merveilleux de Disney, où on se croise au coin de la rue et on a des étoiles dans les yeux, et ça y est, c'est l'âme sœur, et on est ensemble pour la vie, et c'est merveilleux. Ou alors le côté drame à la Roméo et Juliette. En fait, tout ce
Les
qui a été
histoires
fait un peu.
compliquées.
Ben, des histoires compliquées, puis des histoires qui sont devenues un peu clichés, du coup. Parce que c'est vraiment ce qu'on voit tout le temps, c'est un peu ce qu'on reproche à la romance en ce moment, c'est que bah, sur 99% des couvertures, c'est un mec torse nu, les relations, c'est toujours les mêmes, t'as toujours un espèce de triangle amoureux, machin, voilà, et y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de nouveauté, et surtout, c'est pas réaliste. Ça fait peut-être rêver certaines personnes, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes romans. C'est des gens qui se cherchent un peu, qui sont peut-être d'abord amis, qui se rencontrent dans un cadre différent et qui se découvrent certains sentiments, qui se découvrent une certaine attirance et qui jouent un peu ensemble, qui se draguent un peu, qui sont séparés et qui se retrouvent. Enfin, j'essaye de faire vraiment comme dans la vraie vie. Et je pense que l'avantage que j'ai, c'est que justement, j'écris pas de romance. C'est pas le pilier de mon histoire. Donc, je peux me permettre de ne pas en parler pendant un temps et de revenir dessus un peu plus tard avec des idées un peu plus fraîches.
Oui, parce que je sais pas si on l'a dit, mais du coup, tu as décrit de la fantasy.
Exactement. Pour l'instant, j'ai deux sagas de fantasy en cours, une biologie et une trilogie. Et après, j'écrirai d'autres choses. Je vais écrire aussi un roman d'urban fantasy en même temps. Et après, j'ai prévu thriller, SF, dystopie, feel good. Enfin, j'ai vraiment prévu tout.
Le mec hyper busy, quoi.
Ouais,
hyper
bah,
prolifique.
J'ai une quinzaine de projets dans les tiroirs pour l'instant qui sont même pas commencés d'écrire. J'ai juste le plan en fait avec les personnages, j'ai juste l'idée de départ.
Mais c'est déjà beaucoup, hein.
Bah vu que je sors en moyenne 2 romans par an, peut-être 3 bientôt. Bah j'ai quand même entre 5 et 8 ans d'écriture de romans, on va dire.
Ouais. Ok. Et du coup, tu te lances dans ce métier à temps plein, quoi.
Oui, depuis le 1er mai, j'ai refusé de prolonger mon dernier CDD en entreprise pour me consacrer à l'écriture, parce que j'ai sorti mon premier roman au mois de mars, le week-end juste avant le confinement. Encore une fois, j'ai eu un timing fameux. Et en fait, après, mon contrat se finissait, et comme le roman est sorti, je me suis dit, allez, je suis lancé, je me lance dans l'écriture du deuxième. Et du coup, ça s'est bien passé, j'ai aimé ça, et j'ai de plus en plus de lecteurs. Donc en fait, maintenant... ça représente que des avantages pour moi, parce que je suis en train de percer, de faire mon petit trou. Et en plus, bah, au niveau physique, je tiens le rythme beaucoup plus facilement, parce que c'est éprouvant au niveau mental de devoir tenir un rythme aussi élevé dans l'écriture. Mais je prends plus les transports. En région parisienne, c'est un luxe aimable.
C'est clair.
J'ai plus d'horaire fixe, j'ai plus de collègues, de patrons, etc. Je travaille de chez moi et j'arrange mes journées comme j'ai besoin, comme en plus j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux. Je peux vraiment m'organiser comme j'ai envie, quoi.
Ouais. Et est-ce que tu t'inspires de ta relation avec Christina pour le mettre dans tes romans?
Alors, comme les romans que je suis en train d'écrire, je les ai prévus il y a assez longtemps. Non, parce qu'en fait, ils étaient déjà prêts.
Ok.
Mais par contre, dans le troisième tome de ma trilogie, le personnage principal va enfin développer quelques sentiments, parce que là-bas, c'est un petit voyou des rues qui a autre chose à faire que de s'investir sentimentalement dans ses relations. Il est plutôt genre dragueur de bar. Et ouais, bah, désolé.
Ouais, et non,
en fait,
mais
il va grandir, il va évoluer, il va vieillir aussi quelque part. Et il va enfin développer des sentiments amoureux. Et j'avais prévu un personnage féminin qui correspond à ce que lui aime dans une relation. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que cette personnage-là, féminine, correspondait sur beaucoup de points à la personnalité de Christina, en fait.
Ah, trop marrant.
Donc, je vais un tout petit peu modifier ce personnage-là pour correspondre vraiment à Christina, et puis je vais mettre Christina dans le rôle.
Ah, c'est trop chou. Ok. Et du coup, c'est quoi les qualités que ce personnage-là... aime et cherche un petit peu... Enfin, qu'est-ce qui le fait fondre ?
Alors, lui, dans cette trilogie-là, la caractéristique principale de ce personnage-là, c'est qu'il a la faculté de ressentir les émotions des êtres vivants autour de lui. Donc, des êtres humains, bien sûr, mais aussi des animaux. Il ressent un peu les pulsations de vie des plantes, etc. Donc, il est extrêmement ouvert à son environnement. Et pour lui, c'est quelque chose qui devient une deuxième nature, en fait, de prendre en compte les émotions des autres. Et du coup, d'avoir énormément de compassion. Parce que l'un va pas sans l'autre. Et de voir quelqu'un qui a cette intelligence au niveau social de comprendre les gens et d'avoir la volonté de les aider de la bonne manière derrière, c'est quelque chose qui va le toucher tout de suite. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait la même chose que lui sans avoir de capacité magique, entre guillemets, et qu'il fait naturellement par la force de sa personnalité. C'est quelque chose qui est assez ouf, je trouve, et que lui va adorer. Et en plus, c'est quelqu'un qui fait ça de manière forte et indépendante, j'ai envie de dire. C'est pas quelqu'un qui se repose sur les autres, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va être proactif. Et Christina, elle est comme ça, elle va tout de suite... quand je lui ai dit que j'étais malade, par exemple, elle se dit Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça se passe? Elle a posé des questions, elle s'est intéressée au sujet, elle a fait des recherches de son côté, elle fait en plus de la psychothérapie, elle fait de l'hypnothérapie. Là, je suis content, elle va avoir ses premiers patients, je suis trop fier.
Yes.
Et du coup, elle a décidé, sans que je lui demande ni rien, de développer un schéma narratif d'hypnothérapie dédié aux douleurs auto-immunes. Et sans que personne lui demande rien. Et c'est ce genre de personnalité à la fois intelligente et bienveillante et active qui fait que bah ça fait un bon combo quoi.
Ouais, c'est marrant parce que du coup ça revient vachement à ce que tu disais un peu comme définition de l'amour et de vraiment ce côté compassion, prendre l'autre en compte, ça a l'air d'être vraiment vraiment important pour toi. Et ce que je remarque, enfin là t'as des petites allusions à ce qu'elle fait elle et on sent que t'es fière et que c'est et du coup c'est pas enfin c'est pas qu'il y a un seul sens quoi, c'est vraiment l'un l'autre, vous vous prenez en compte et vous vous mettez en valeur quoi.
Ah oui, complètement. Bah, je pense que c'est important dans une relation qui dure, dans le sens où c'est facile d'avoir une relation de 6 mois ou 1 an, où ça se passe relativement bien, sans trop s'impliquer, en laissant juste les choses se faire naturellement. Et quand on veut qu'une relation dure et que les deux soient heureux, en minimum, s'investir dans le bonheur de l'autre, j'ai envie de dire, sans être envahissant. Hein. C'est quelque chose que j'ai déjà eu ça dans le passé et c'est malsain. Quelqu'un qui est vraiment envahissant, qui veut contrôler pour essayer d'apporter du bonheur à l'autre, c'est vraiment pas une solution, je pense.
Ah ben on
Mais il
n'est
y a
pas
un
le
juste
parent de
milieu.
l'autre. On n'est pas le parent de l'autre.
Exactement.
C'est... Voilà.
Justement, c'est trouver le juste milieu entre le pote et la mère. Tu vois, c'est un peu ça.
Ben non, c'est être la compagne, tu vois. Enfin, c'est...
Ouais, mais il y a des gens pour qui cette distinction-là vient pas naturellement et c'est un fait et faut qu'ils travaillent dessus s'ils en ont envie. Après, il y a des relations codépendantes, mère-fils ou père-fille, ou si les deux sont heureux, après, c'est leur relation. Hein,
Ouais, non,
et
carrément.
c'est pas ma vision des choses. Quand on essaye de me contrôler plus que de me soutenir, j'ai un rejet complet et total de l'autorité, surtout quand elle est mal placée. J'ai déjà eu des soucis avec ça. Du coup, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait fuir à toutes jambes.
Ouais, je comprends. Bah, moi, j'ai un peu ce problème-là où, enfin, non, mais c'est que j'ai un côté hyper maternel et du coup, quand je suis bien avec une personne, j'ai envie de prendre en charge sur moi plein plein de petites choses. Et ben non en fait. Il faut faut enfin moi je me rends compte que c'est pas forcément déjà ça laisse pas à l'autre l'opportunité de faire ces choses-là, de se réaliser et de d'être proactif autant qu'il le voudrait dans la relation. Donc c'est
Bah,
dommage.
je pense que toute relation est différente
Ah
forcément
bah
et
oui.
que avoir ces instincts-là, c'est pas un problème à partir du moment où t'en parles en fait.
Ouais
Où
ouais.
t'en parles et tu dis, bon, écoute, moi j'aimerais bien faire ça, ça, ça parce que j'ai envie de prendre soin de toi. Qu'est-ce que t'es ok? Qu'est-ce que tu aimerais me laisser faire? Qu'est-ce que toi tu veux faire toi parce que tu y tiens? Je pense qu'à un moment, faut discuter de ces choses-là aussi
Ah
et
bah
c'est
oui.
comme ça que ça se passe bien derrière.
La communication, c'est important. Parce que
Ouais.
ça revient à mon mojo préféré, le consentement, c'est important. Et
Ouais,
du coup, ça fait que l'autre est ok du fonctionnement de la relation, quoi.
c'est des trucs bêtes, hein. C'est comme tu disais, c'est s'occuper de certains trucs, se prendre soin de certains trucs, comme par exemple, je sais pas, faire à manger, c'est le truc tout
Ouais.
con. T'as des gens, quand ils sont en couple, ça les rend vraiment heureux de faire à manger pour l'autre. Mais l'autre a peut-être envie de temps en temps de faire un petit plat aussi pour montrer son affection. Donc voilà, faut en discuter. C'est des petits gestes du quotidien qui font que, bah, c'est sympa, l'intention est bonne, mais il faut pas non plus que ça empiète ce que l'autre a envie de faire ou sur ce que l'autre a envie de démontrer aussi.
Ouais, bah ouais. Moi, je suis en pleine démarche de ça, tu vois. Comme quoi, j'ai beau avoir étudié en écoutant tout plein de témoignages, bah, il y a quand
Ah
même des choses à gérer chez chacun, quoi.
ouais. Bah, entre la théorie et la pratique, en plus, c'est pareil.
Oui.
Chaque relation est différente en plus, donc ce que tu entends là, ça ne fait pas forcément que toi, tu vas vivre dans tes propres relations,
Ah bah
même si
oui,
c'est
tout à
l'ouest.
fait. Écoute, moi j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais savoir avec toi, et on arrive dans un bon timing de mon nouveau format. Est-ce que toi ça va? Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose?
Bah moi oui, ça va. C'était des bonnes questions intéressantes.
Merci.
Je suis en train de réfléchir. Non mais c'est parce que je t'avais déjà fait la remarque la dernière fois, et c'est vrai que c'est des questions qui reviennent rarement sur le tapis. Et surtout chez moi, les gens qui sont un peu proches de moi savent que je suis pas du genre à m'étaler niveau
Oui.
sentiment. Enfin, quand je vais raconter à certaines personnes que je suis dans un podcast qui s'appelle Parle-moi d'amour, au début, ils vont rigoler, ils vont penser que je déconne. Et du coup, c'était une bonne opportunité pour moi. Donc, merci, ça permet aussi de montrer un peu comment je fonctionne et ce que je pense de certaines situations. Et je pense que j'ai des lecteurs et des amis qui vont être intéressés par ça parce que c'est un peu ce qui manquait dans mon premier roman. Et c'est un des retours principaux que j'avais. Bon, c'est très cool tout ça, il est bien ton bouquin, mais quand est-ce que tu mets un peu d'amour?
Ouais, bah maintenant que t'as un peu plus d'amour concret dans ta vie, ça va peut-être aider à développer des trucs dans tes bouquins, quoi.
Ça va peut-être les rendre plus précis et plus réalistes, mais
Ouais.
c'est, enfin, au niveau des relations, j'avais déjà prévu à l'avance le développement des trucs et tout, donc ça,
Ouais.
c'était prévu. Mais après, ça va peut-être, même très certainement, m'aider à développer certains aspects. Ouais. D'ailleurs, Christina m'aide énormément dans l'écriture en ce moment. Elle a participé énormément, elle m'aide à réfléchir sur tous les aspects, pas que sur les relations. Et ça me fait du bien d'avoir quelqu'un, surtout au rythme où je vais, qui me permet d'être un peu plus efficace et qui est ouvert et qui aime bien en discuter. C'est vraiment top.
Ouais, je fais une parenthèse un peu hors sujet, mais je rebondis sur ce que tu dis, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de métiers comme ça, où c'est très solitaire, tout vient de la même personne, et en fait, parfois, t'as besoin de confronter tes idées avec quelqu'un, de les challenger, de voir comment elles peuvent évoluer, et enfin, moi je trouve que le brainstorming, c'est un peu la vie, quoi.
Ouais, surtout que moi j'ai ce passif-là de travailler en laboratoire, donc en équipe, puis après d'être manager d'équipe, de gérer des réunions d'équipe, etc. J'ai ce réflexe-là de discuter en groupe, et même si on discute avec quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience ou les compétences nécessaires pour faire le même métier que soi, je pense notamment à l'écrivain, tout le monde peut avoir les compétences, mais tout le monde n'a pas l'expérience d'avoir écrit un livre. Et bah, ça aide quand même. Toi, Christina, elle n'écrit pas du tout. Elle lit relativement peu et elle s'intéresse surtout à la psychologie. Elle lit pas de romans de fantasy, par exemple. Et pourtant, elle m'a débloqué des situations parce que juste le fait d'échanger, ça aide à réfléchir, en fait. Et je pense que écrivain, ça peut être solitaire si on le décide, mais ça peut tout à fait être un métier social. Mais sur le réseau, j'investis beaucoup mes lecteurs. Je leur pose des questions toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai un post-question pour savoir ce que eux préfèrent sur une thématique. Enfin, voilà.
Ok, et du coup,
C'est aussi possible des cas en groupe.
ouais, et du coup, ton couple, vous faites une belle équipe.
Ouais, complètement. Je pense qu'on se complète pas mal sur beaucoup d'aspects et du coup, on a vraiment cette volonté d'avancer ensemble et pas en parallèle ou l'un contre l'autre. Donc c'est vraiment positif.
Bon, bah écoute, je crois qu'on peut finir sur ces belles paroles, que l'amour, c'est aussi faire les choses en équipe.
Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. C'est
Ça
une bonne
finit bien.
conclusion. Ouais.
Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu aimerais dire aux auditeuristes qui nous écoutent?
acheter mes livres, quoi.
Ouais, bah oui, bah tu fais bien de le dire. Très
Par
bien.
exemple? Oui.
Super. Eh bien, n'hésitez pas à chercher Frank G. Matthews sur Amazon. Et c'est. Y a le porteur des lames saintes, donc ça c'est ton one shot que tu as sorti en deuxième. Et le
C'est ça,
premier,
exactement. C'est le nouveau parleur. C'est
c'est
lui, du coup,
ça.
qui a cette capacité de ressentir et d'interagir avec les émotions des êtres vivants autour de lui.
Super! Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt et je vous aime!
Dans 10, 20, 30 ans, c'est une vraie possibilité.
Ça peut me fasciner. Désolé.
Je suis sûr qu'ils vont reconnaître le type de Bruxelles.
C'est ça. Ouais, je viens de divorcer, voilà, il faut.